point de mire.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, que ce soit dans le monde du cyclisme, du foot, de l'athlétisme et encore bien d'autres disciplines sportives, elles sont régulièrement, ces disciplines sportives, entachées par de sombres affaires de dopage. EPO, anabolisants, testostérone, hormones de croissance, toutes ces méthodes, vous en avez entendu parler, elles concernent le sport de haut niveau, mais également peut-être des sportifs amateurs, peut-être des enfants qui utiliseraient la ventoline, la codéine, des excitants du type peut-être Guronzan. Enfin bref, depuis 1999 existe le CPLD, le Conseil de prévention de lutte contre le dopage, créé par Marie-Georges Buffet, alors ministre des Sports. Et depuis octobre 2006, ce Conseil de prévention de lutte contre le dopage s'est transformé en Agence française de lutte contre le dopage. Alors, nous allons pouvoir voir avec Michel Rieux quels sont les objectifs de cette agence. Est-ce que c'est juste un changement de sigle ou est-ce qu'il y a de nouvelles attributions qui lui sont accordées? Et puis nous verrons également avec Monsieur Rieux le budget, comment fonctionne cette agence, avec quel argent, est-ce qu'elle réalise des tests, est-ce qu'elle sanctionne ses sportifs, qui se dope, qu'est-ce qu'on utilise comme dopant, est-ce que les médecins qui prescrivent peut-être ces produits sont-ils également sanctionnés? Enfin bref, nous allons faire une sociologie, un petit micmac du dopage et surtout du rôle de l'Agence française de lutte contre le dopage avec Michel Rieux qui est donc en studio avec nous. Michel Rieux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes conseiller scientifique auprès de cette agence française de lutte contre le dopage, AFLD. Vous êtes spécialiste du sport et du dopage en France. Vous étiez ancien chef de service d'exploration fonctionnelle et de physiopathologie de l'exercice à l'hôpital Cochin et professeur des universités, Université Paris 5, René Descartes. Je ne sais pas si j'ai tout dit dans vos précédentes fonctions et dans vos fonctions actuelles, peut-être que vous pourriez nous en dire un peu plus. Mais tout d'abord, peut-être que nous pourrions faire un premier constat avec vous, puisque vous êtes spécialiste du dopage et de tout ce qui est du domaine sportif. Quel est l'état des lieux ici en France concernant le sport et le dopage, Michel Rieux?
Alors, tout d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas un spécialiste du dopage, mais de la lutte contre le dopage.
De la lutte contre le dopage,
sinon,
oui.
Je voudrais en faire un risque qui n'est pas mon cas. Alors, si vous voulez, actuellement, vous avez parlé de la transformation, n'est-ce pas,
du centre de prévention en agence française.
Alors, cette transformation, d'abord, avait pour objectif de rentrer dans le cadre du code mondial de l'AMA, c'est-à-dire de l'Agence mondiale antidopage, qui prévoit que, là où c'est possible, dans les pays, il y ait la constitution d'agences qui reflète un peu à l'échelon national, ce qui est l'AMA, au niveau mondial. Et de ce fait, les compétences du CPLD se sont à la fois grandement élargies et peut-être un petit peu rétrécies dans ce qui concerne ces compétences internationales, je vais y revenir. Alors, sur le plan national, effectivement, les compétences du CPLD se bornaient essentiellement à la sanction, auquel s'ajoutait un rôle de contribution à la prévention et à la recherche. L'ambition et la compétence de l'agence est beaucoup plus importante. D'ailleurs, son budget a été multiplié par 7 ou 8. Hein.
Et nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être.
Oui, oui. Eh bien, l'agence a donc maintenant pour rôle, de toute façon, elle garde sa compétence dans le domaine de la sanction. Je vous redirai aussi quelle est la composition de cette agence, hein, du collège de l'agence. Mais en plus, elle a la responsabilité maintenant de l'organisation des contrôles, ce qui n'était pas le cas du CPLD, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports qui avait cette responsabilité. Elle a maintenant la tutelle du laboratoire d'analyse et de détection du dopage, ce qui s'appelait avant le LNDD, qui était situé à Châtenay-Malabry et qui était une institution publique placée sous la tutelle du ministère et qui maintenant est devenue un service de l'agence. C'est-à-dire que l'agence est constituée maintenant de la façon suivante. Il y a un collège de 9 membres. Le président est forcément un conseiller d'État. On a conservé la même structure que pour le CPLD. Il y a 2 magistrats issus de la Cour de cassation, nommés par le président de la Cour de cassation. Il y a 3 membres de chacune des 3 académies.
Académie, c'est-à-dire des sciences, médecine
science et pharmacie. il y a un membre, qui sont tous nommés par le président de chacune de ces académies. Il y a un membre du comité d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé nationale. Il y a un membre du comité national olympique et sportif français, nommé par le président, et
un sportif de haut niveau.
Niveau. Et vous voyez donc que par cette composition, le collège est totalement indépendant. Il ne peut subir aucune pression, ni sur le plan du monde sportif, ni sur le plan du monde politique.
Ça, c'est très important.
Ah, mais ça, c'était l'objectif
essentiel. Ce n'était pas
essentiel.
Le cas avec le centre de prévention.
C'était l'objectif essentiel, ça, de la loi Buffet. C'était de donner une indépendance totale à cet organisme. Et l'AFLD a conservé cette indépendance.
Mais alors, avec quel budget ? D'où provient
indépendance
le budget ?
Par rapport au budget. Le budget est un budget de l'État, mais étant donné que l'AFLD est aussi assorti maintenant de la personnalité morale, ce qui n'était pas le cas du CPLD, l'AFLD peut très bien recueillir des fonds venant d'autres institutions, venant voire même de fondations privées. Autrement dit, il y a là une grande marge de manœuvre que nous n'avons pas encore explorée, puisque l'AFLD ne date que du 1er octobre 2006. Le décret qui a mis en place l'AFLD n'a que quelques mois. Ce qui fait que pour le moment, on n'a pas encore exploré toutes ces possibilités. Alors par ailleurs, pour continuer sur la composition de l'AFLD, l'AFLD maintenant dispose d'un département qui est le département des contrôles, avec un directeur de département, d'un département des analyses, c'est le laboratoire de Châtenay, avec un directeur de département, un secrétaire général qui couvre, si vous voulez, tout cet aspect de gestion du fonctionnement, un médecin qui sera le médecin de l'agence, des chargés de mission et un conseil d'orientation scientifique dont on aura peut-être l'occasion de parler et qui est un conseil d'orientation scientifique qui va être international et un conseiller scientifique qui est placé directement auprès du président. Voilà, si vous voulez, comment fonctionne l'agence sur le plan de l'organigramme.
Alors, j'avais cru voir également que parmi les membres qui composaient donc l'Agence française de lutte contre le dopage, il y avait également un membre de l'Académie vétérinaire.
Alors, ça, c'est effectivement nouveau, puisque ce que n'avait pas le CPLD, l'AFLD a autorité maintenant sur le contrôle et les sanctions concernant le dopage animal. C'est-à-dire essentiellement, bon, il n'y a pas forcément que ça, mais enfin, c'est le plus gros morceau, si j'ose dire, c'est l'équitation.
Les compétitions équestres.
Alors, les compétitions, il ne s'agit pas des courses du PMU. Il s'agit bien des compétitions qui dépendent de la Fédération nationale d'équitation. Alors, pour répondre à ce problème, effectivement, il y a la possibilité pour un membre désigné par l'Académie vétérinaire de siéger en tant que tel au niveau du collège lorsqu'il y a un problème de dopage animal.
D'accord, il intervient ponctuellement.
Voilà, c'est ça.
Alors,
mais il est membre du collège.
Il est membre quand même du collège. Les compétences, on va peut-être pouvoir en reparler plus en détail. Il y a une partie, bien sûr, sur la recherche, les outils pour détecter, je suppose, les nouveaux dopants. Il y a également une partie de prévention qu'on va pouvoir évoquer. Mais alors justement, quels sont vos outils? Comment ça se passe pour faire des contrôles? D'abord, est-ce que vous savez combien de contrôles vous allez pouvoir faire, là, par exemple, pour l'année 2007?
Alors, d'abord, le nombre de contrôles, il dépend de la capacité, du potentiel du laboratoire de Châtenay à faire des analyses. Parce que ça ne sert à rien de faire des contrôles si on ne dit rien, on ne fait pas des analyses. Le potentiel du laboratoire de Châtenay est d'environ entre 9 et 10 000 analyses par an.
C'est peu, c'est beaucoup?
Alors, si vous comparez aux laboratoires étrangers agréés, c'est quand même un des 3 ou 4 premiers laboratoires en la matière. Alors, c'est donc beaucoup. Par contre, c'est peu sur ce qu'on souhaiterait faire. C'est vrai, parce que si vous tenez compte du fait, d'abord, du nombre de sportifs de haut niveau en France, si vous tenez compte aussi que le dopage ne touche pas que la population des sportifs de haut niveau, qu'il serait important d'avoir une politique, j'appellerais de prévention-dissuasion, qui se situe non seulement au niveau du sport amateur, mais au niveau aussi des plus jeunes. Et là, nous risquons de ne pas avoir tout le potentiel que nous souhaiterions avoir. Alors ça, c'est une autre démarche, on va y réfléchir, et voir dans quelle mesure on peut éventuellement déléguer à d'autres laboratoires cette possibilité de faire des analyses. C'est pas évident sur le plan réglementaire. Enfin, là, je peux pas vous en dire plus parce que nous en sommes à l'état de la réflexion.
Mais alors, sur les autres contrôles des années précédentes qui ont pu être réalisés, mais pas donc pas par le CPLD, hein, mais par d'autres organismes, sur 9000 contrôles, quel est le taux de contrôle positif?
Alors,
est-ce qu'on a des, oui, est-ce qu'on a l'épidémiologie? Voilà, c'est le mot
oui,
que enfin, je disais,
oui, quoi que c'est une épidémiologie un peu, comment je dirais, un peu biaisée, parce que le nombre de contrôles positifs, l'année dernière, on a eu environ un peu moins de 5% de contrôles positifs.
Est-ce que ces personnes qui allaient être contrôlées savaient qu'elles allaient être contrôlées?
Alors, il y a environ 50% de contrôles inopinés et 50% de contrôles automatiques, si vous voulez, programmés. Et de façon un peu paradoxale, c'est ce qui aussi nous amène à réfléchir, eh bien, les contrôles programmés semblent avoir un taux de réussite légèrement supérieur aux inopinés. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce que les inopinés sont totalement inopinés? Ou est-ce que la réflexion par rapport à l'opportunité et à la pertinence du contrôle inopiné a été totalement conduite? Alors, nous maintenant, nous allons reprendre cet aspect des choses. Et c'est vrai que d'emblée, le nouveau directeur des contrôles, qui est M. Jean-Pierre Verdi, qui lui-même avait, disons, été un peu responsable de tout cet aspect-là à l'époque, à la direction régionale d'Île-de-France, maintenant travaille avec nous au sein de l'agence, a donc une compétence nationale, et manifestement, lui s'intéresse beaucoup, d'ailleurs il travaille beaucoup avec les scientifiques, et il s'intéresse beaucoup, et il s'interroge sur la pertinence de ces contrôles inopinés. Non pas qu'il mette en doute la qualité des contrôles inopinés, au contraire, je pense que c'est, pour lui c'est un aspect tout à fait indispensable, mais le moment où il faut faire un contrôle inopiné dépend évidemment de la discipline, dépend des objectifs du sportif et dépend donc du type de dopage utilisé. Actuellement, le dopage, si vous voulez, fait par les dopeurs, d'abord dans le sport de haut niveau, ce sont des vrais professionnels qui mettent en place les protocoles de dopage.
Oui.
C'est plus le pharmacien du coin ou le médecin du coin ou le soigneur du coin.
Ce sont les entraîneurs, les médecins, les
sportifs? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a vraiment des réflexions et des staffs techniques, scientifiques qui organisent le dopage. Puis ce n'est pas forcément uniquement à l'échelon national. Ces réflexions sont internationales. Et c'est vrai que, disons maintenant, les dopeurs, que je vais mettre en gros guillemets professionnels, connaissent parfaitement la pharmacologie, la pharmacocinétique. Ils savent très bien à partir de quel moment il faut arrêter l'administration d'un médicament ou d'une substance compte tenu de sa demi-vie pour qu'elle ne risque pas
d'apparaître dans les
urines ou dans le sang. Ils savent très bien quelles sont les doses à partir de laquelle il est très difficile de détecter. Alors, en plus, ils connaissent les programmes des sportifs, c'est-à-dire ils savent exactement quelle compétition le sportif a dans son objectif principal. Donc le dopage doit être orienté en fonction de cette compétition. Et évidemment, vous comprenez bien que maintenant, le dopage pendant la compétition est un dopage que je dirais relativement subalterne par rapport au dopage qui accompagne l'entraînement. C'est là, actuellement, où se situe le vrai problème. Donc, si on veut faire des contrôles inopinés de qualité, il faut être, nous, l'image en miroir des dopeurs.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut savoir quels sont les protocoles utilisés pour tel ou tel type de substance, que ces substances sont essentiellement utilisées dans telle discipline et pas dans telle autre, et que c'est donc à ce moment-là précis, en fonction des objectifs du sportif, que l'on a quelque chance de pouvoir retrouver des substances, quand les substances sont détectables,
ce qui n'est pas
toujours le cas.
Est-ce qu'il serait plus intéressant de réaliser des contrôles peu avant la compétition, quelques jours auparavant, voire une semaine auparavant, puisque vous nous expliquez que c'est plutôt dans le processus de l'entraînement qu'on va administrer aux professionnels sportifs.
Ça peut se faire, mais même quelques temps avant la compétition, si j'ose dire, le mal est déjà fait. Le sujet a déjà, par exemple, bon, pour prendre un aspect, il y a des choses beaucoup plus fines, mais pour prendre un aspect un peu caricatural, il est clair que c'est pas quelques jours avant la compétition que le sportif va prendre 10 kilos de muscles. C'est un long travail qui précède, qui associe à la fois, bien sûr, des efforts importants de musculation, qui associe un plan de nutrition tout à fait légitime, mais à côté de ça, l'utilisation, par exemple, de stéroïdes anabolisants, et qui font que le sujet va... Alors, qu'est-ce qui se passe bien souvent ? Le sujet part à l'étranger, où là, parfois, les surveillances sont moins fermes, moins claires. Et puis là, il prend ses kilos de muscles et puis il revient en France. C'est de toute façon, c'est indétectable. Vous voyez, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut élargir, ça on y reviendra peut-être, si vous voulez, dans le domaine de la réflexion, de la recherche, élargir cette notion de détection à un cadre beaucoup plus large, qui est celui de la mise en évidence des marqueurs indirects du dopage. Ça va être vraiment nos objectifs de recherche dans les années qui viennent.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, Michel Rieu, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Suite de notre émission Point de mire en compagnie de Michel Rieu, conseiller scientifique de l'Agence française de lutte contre le dopage. Dans cette seconde partie d'émission avec vous, Michel Rieu, nous allons pouvoir parler de trois thèmes différents. Quelles sont les disciplines touchées tout d'abord par le dopage? Nous allons également pouvoir parler des jeunes, puisque, comme vous me le disiez là pendant cette pause, on parle beaucoup des sportifs de haut niveau, mais on n'est pas sportif de haut niveau, on le devient, donc on va pouvoir parler de ces jeunes qui sont confrontés également au dopage. Et puis, bien sûr, nous allons pouvoir parler de la recherche, qui est un thème qui vous est cher. Tout d'abord, les disciplines. On parle beaucoup du cyclisme. Est-ce qu'il n'y a que le cyclisme qui est touché ? Mais ma question est volontairement provocatrice.
Non, bien sûr, on le sait très bien maintenant. C'est vrai que le cyclisme a défrayé de temps en temps la chronique, et puis que c'est un bon vendeur concernant le dopage, le cyclisme. Mais malheureusement, malheureusement, il n'y a pas que le cyclisme. On peut dire que quasiment tous les sports sont concernés, et d'autant plus concernés que certains sports se sont maintenant orientés vers le professionnalisme.
À partir du moment où il y a une dimension de spectacle, peut-être, comme le foot,
Et financement, financier, l'aspect financier, l'aspect spectacle, les deux sont indissociables. Et c'est vrai, le foot, le rugby est actuellement inquiète. C'est vrai que le rugby...
On en parle beaucoup moins du rugby.
Si, il y a eu quelques articles dernièrement qui ont quand même défrayé la chronique. Non, le rugby qui était un sport essentiellement convivial, essentiellement, je dirais, de ludique, c'est violent, mais néanmoins ludique, est devenu professionnel. Et c'est vrai qu'on a quelques inquiétudes à l'heure actuelle. Bon, le football, sans doute aussi. Le cyclisme, bien sûr. L'athlétisme, évidemment. Oui. Tous les sports, actuellement, sont menacés de ce fléau. Il faut bien être conscient. Et notamment, vous avez parlé du problème des jeunes, notamment, oui, ils croient que ça va être un de nos soucis majeurs, les jeunes.
Alors justement, sur votre site internet, on peut voir le résultat d'une enquête qui a été réalisée par le docteur Roland Jouvent et Patrick Laure. Et cette enquête montre qu'apparemment, sur les enfants qui ont été interrogés, les enfants en âge scolaire, 10% seraient confrontés au dopage. Alors, que veut dire confrontés et qu'est-ce qu'on appelle dopage dans le domaine des enfants ?
Alors, c'est deux enquêtes différentes, d'abord, mais qui rejoignent un petit peu les mêmes résultats. Alors, l'enquête de Patrick Laure a cette originalité, c'est qu'elle s'adresse aux jeunes qui font partie de l'Union nationale des sports scolaires. Donc, c'est des sportifs scolarisés.
Voilà, c'est l'UNSS.
L'UNSS. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enquête avait envoyé un peu plus de 30 000 questionnaires. Nous n'avons eu que 6 000 réponses, ce qui a un peu déçu Patrick Laure. Moi, je trouve que c'est déjà pas si mal dans le cadre d'une enquête. Et en tout cas, ça place l'enquête de Patrick Laure parmi une de celles qui traite une des populations les plus nombreuses dans le monde. Il y a eu quelques enquêtes qui ont encore traité une population encore plus importante, mais c'est une très grosse cohorte quand même dans ce domaine-là. C'est un domaine difficile, puisque dans le cas de l'épidémiologie du dopage, comme il n'y a aucune aucun pacte de confiance entre l'enquêté et l'enquêteur. On comprend bien pourquoi. Il y a quand même une certaine omerta qui existe. Les résultats que l'on obtient sont difficilement exploitables. Dans le cas de cette enquête, comme vous l'avez dit, il apparaît que 10% des enfants ont été confrontés au dopage.
Alors confrontés, voilà.
Ça veut dire que 10% d'entre eux se dopent. Ça veut quand même dire, c'est de mémoire, hein, donc vous ne m'en voudrez pas, c'est des ordres de grandeur, qu'environ 2,5% de ces enfants, effectivement, ont pris à un moment donné des produits dopants.
À leur domaine, à leur échelle, qu'est-ce qu'on appelle produits dopants?
Ah ben non, on voit tout. On voit des stimulants. On voit des stimulants. On voit pour certains des anabolisants.
Pour des enfants?
Tout à fait. Enfin, oui, vous savez, l'UNSS, l'échelle d'âge est relativement large. Hein. Et puis, bien sûr, beaucoup de cannabis, hein, qui est, n'oublions pas, est considéré comme un produit dopant. Mais alors, le reste, si vous voulez, ce sont des enfants qui ont été confrontés, c'est-à-dire certains d'entre eux ont entendu parler du dopage par leurs copains. D'autres ont été carrément sollicités par soit leurs amis, soit leurs entraîneurs, soit même les parents ou les médecins pour prendre des produits.
Alors là, c'est quand même grave. Vous voulez dire que les parents cautionnent et seraient prêts à donner les produits à leurs enfants pour faire des athlètes de haut niveau.
Pour faire des performances, tout à fait. C'est pas, je ne dis pas que tous les parents ont ce comportement, bien évidemment.
Oui.
Mais dans l'enquête qui a été exploitée par Patrick Laure, on voit bien que les parents jouent un rôle qui n'est pas négligeable.
Et qui est une enquête récente, hein, qui date de 2005,
oui,
il me
ça,
semble.
Oui, c'est ça, une enquête récente. Donc ça, il faut le savoir. C'est vrai qu'un certain nombre de parents se projettent à travers leurs enfants, leurs rêves, et peut-être voient dans le sport un moyen de promouvoir leurs enfants. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de... On a vu des histoires qui ont défrayé la chronique. Hein, ce père qui, je crois qu'il ne dopait pas ses enfants, mais il dopait les autres. Hein.
C'est un vrai assez problème. Particulier, puisque finalement l'opinion publique condamne de manière générale le dopage, comme on vient de le dire, dans le cyclisme, puisque c'est ce qu'on entend le plus, mais également le football ou le rugby. Et à côté de ça, ces mêmes personnes qui condamnent dans le milieu du spectacle...
Je ne pense pas que ce soient les mêmes personnes. Ce ne sont pas les mêmes personnes. N'oubliez quand même pas que l'enquête ciblait une population bien définie, que dans cette population, il n'y a quand même que 10% des enfants qui ont avoué être confrontés au problème du dopage, que seulement 2,5% avaient effectivement absorbé des produits dopants, que les autres avaient été ensuite sensibilisés et éventuellement sollicités pour le dopage, et dont un petit pourcentage d'entre eux étaient eux-mêmes couverts par leurs parents. Et les médecins aussi, hein. Les médecins aussi. Alors, tout ça est compliqué, c'est ce que Patrick Laure appelle les conduites dopantes. Hein. On dit, est-ce que vous n'avez pas des vitamines à donner à mon enfant?
Oui, ça parce commence que par des vitamines.
Il fait, bien sûr, hein, on commence comme ça, et puis, puis on va un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et puis on débouche sur le dopage.
Mm-hmm.
Vous savez, il y a un véritable continuum, hein. On ne devient pas sportif de haut niveau comme ça par hasard. Hein. Le sportif de haut niveau, c'est un peu de talent, c'est beaucoup de travail, et il y a une espèce
même
de continuum.
Même si tous les sportifs de haut niveau ne se dopent pas.
Certes, bien sûr, mais si on dit, vous comprenez, c'est légitime que ces pauvres sportifs de haut niveau, avec le travail qu'ils font, c'est légitime qu'ils prennent des médicaments.
On aurait tendance à les excuser.
Hein, ça, c'est un discours qu'on entend à l'heure actuelle, que je sens monter, des discours hypocrites et volontairement faux, parce que ça voudrait dire qu'on dédouane les sportifs de haut niveau, on leur permet de prendre des produits dopants, eux, mais pas les autres. Et vous allez me dire exactement quelle différence il y a entre un sportif de haut niveau et un jeune cadet ou un jeune junior qui veut devenir sportif de haut niveau? Si on lui dit qu'il faut se doper, bah, il va se doper. Si, puisque c'est nécessaire de se doper pour être sportif de haut niveau, bah, on se dope. Et donc c'est toute une population qui va se doper.
Et une population à laquelle vous vous intéressez?
Bah, moi, ça me paraît essentiel parce que le dopage, c'est un problème de santé publique. On essaie de l'oublier, ça.
Mm-hmm.
C'est un problème de santé publique. Ce n'est pas un problème de sport. Hein, on voudrait nous faire croire que le dopage, c'est le sport. Non, c'est la santé publique.
Alors, une autre grande partie qui vous est chère et qui est très importante, effectivement, c'est la recherche. Alors, qu'est-ce que l'on met sous ce terme de recherche dans le domaine du dopage?
Oh, ben écoutez, beaucoup de choses. D'abord parce que le dopage, là encore, il ne faut pas l'isoler du contexte général du sport. Le dopage, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Ce n'est pas le vilain petit canard. Non, le dopage, c'est le résultat d'une politique sportive. C'est le résultat, si vous voulez, de ce qu'on attribue comme valeur au sport. À l'heure actuelle, comme l'attribution principale affectée au sport, c'est la performance, que cette performance nécessite effectivement un très gros travail en amont. Ce gros travail en amont entraîne évidemment des surcharges d'entraînement. Ces surcharges d'entraînement risquent de mener au surmenage. Et pour pallier à cette possibilité de déboucher sur un surmenage et donc une réduction de la charge d'entraînement, on utilise le dopage. Autrement dit, vouloir séparer le dopage et, je dirais globalement, la protection de la santé du sportif, c'est une hérésie absolue ou c'est une hypocrisie.
Alors, on va dire sur le plan technique, l'Agence française de lutte contre le dopage dans le domaine de la recherche,
oui,
elle va créer de nouveaux outils pour détecter de nouvelles molécules. Et puis, quel est l'avenir, en fait, du dopage? Quelles sont les nouvelles perspectives?
Alors, voilà quelle est notre démarche, d'abord. Notre démarche, comme je vous l'ai dit, nous avons un conseil d'orientation scientifique de 9 membres. Et nous avons, parmi ces 9 membres, nous avons choisi 5 scientifiques étrangers. Nous avons pris volontairement des scientifiques de haut niveau qui ont tous à leur disposition, dans leur spécialité, ce ne sont pas des gens qui sont particulièrement orientés dans le domaine du sport, hein, surtout pas d'ailleurs, je dirais, sauf 2 ou 3. Ce sont des gens qui ont un réseau d'experts qui va nous permettre, nous, d'augmenter notre réflexion scientifique, notamment à l'échelon européen. Ça, c'est une première chose. Nous avons des relations, grâce à un représentant, de l'AMA, donc des relations étroites avec l'AMA. Mais en amont, si vous voulez, de ce conseil d'orientation scientifique, nous avons un groupe prospectif, qui là aussi, là, est franco-français, et ce groupe prospectif regroupe là aussi des scientifiques de très bon niveau, de haut niveau, qui sont eux aussi dans des disciplines différentes, les unes des autres. Et en fait, en quelque sorte, ce groupe prospectif, ça va être l'incubateur d'idées. C'est à ce niveau-là, si vous voulez, que nous allons recueillir et tenter de formaliser toutes les idées qui peuvent, de façon directe ou indirecte, amener à lutter contre le dopage. Et des projets de recherche pourront être élaborés. Ces projets de recherche, à ce moment-là, subiront le filtre du comité d'orientation scientifique grâce à la mise en place des experts internationaux, parce que nous voulons vraiment que ces projets soient absolument incontournables sur le plan de la rigueur scientifique. Ensuite, nous allons, dans un premier temps, financer des études de faisabilité par rapport à ces projets. Et si ces études de faisabilité, validées ensuite en aval par le Conseil d'orientation scientifique, nous les porterons à ce moment-là vers des organismes de financement nationaux et internationaux pour assurer le développement de cette recherche. Alors, notre grande orientation, alors tout d'abord, c'est non pas négliger la détection de tel ou tel produit. C'est important, bien sûr. Mais surtout, compte tenu du fait qu'il y a des produits qui seront très difficilement détectables, hein, tout ce qui est issu, par exemple, du dopage endocrinien, c'est très difficile de dissocier ce qui est exogène et ce qui est endogène. Nous voudrions, nous parlons aussi du futur, c'est peut-être le dopage qui utilisera les techniques de thérapie cellulaire, voire même, pourquoi pas, dans un temps plus ou moins rapide, les techniques de thérapie génique. Eh bien, il nous faut donc mettre en place une stratégie, c'est pour ça que là, nous voulons prendre de l'avance par rapport aux dopeurs, une stratégie qui va nous permettre non pas tellement de mettre en évidence la substance en question, mais de retrouver sa trace, c'est-à-dire les marqueurs indirects du dopage, la signature du dopage. C'est un gros travail, nous l'avons déjà engagé, alors en utilisant évidemment les techniques actuellement bon, que l'on connaît, mais qui sont quand même assez modernes, la métabonomique,
oui,
les transcriptomes, enfin tout ce qui peut nous amener à voir dans le suivi d'un sportif, qu'est-ce qui va se modifier de façon anormale par rapport à si on utilise telle ou telle substance, et même la signature biologique de l'utilisation d'une substance donnée. Et là, nous ne rêvons pas. Il y a eu déjà des études qui ont été faites. Déjà, nous avons une étude qui est en cours en collaboration justement avec la Fédération française de cyclisme, l'INSERM et l'INRA, sur la signature biologique du dopage.
Michel Rayeux, merci. Je suis désolée, notre émission doit se terminer ici. Mais j'espère que vous pourrez revenir pour une deuxième émission, pour peut-être pouvoir en reparler plus en détail, puisqu'on l'a bien entendu, en tout cas, c'est un sujet passionnant. J'aurais des tas d'autres questions à vous poser. Malheureusement, donc, notre point de mire se termine. J'espère que vous accepterez de revenir pour parler peut-être plus en détail de cette question de la recherche. Peut-être que nous pourrons parler également des perspectives pour 2007-2008. Est-ce que votre objectif, c'est d'enrayer totalement le dopage? Est-ce que c'est une utopie ou pas? Enfin bref, j'espère en tout cas que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. Et je renvoie donc nos auditeurs à votre site internet qui a encore l'ancien sigle, hein, cpld.fr, donc Centre de prévention de lutte contre le dopage, même si vous êtes devenu depuis octobre 2006 l'Agence française de lutte contre le dopage. Et je rappelle que vous êtes conseiller scientifique de cette agence et que l'agence est liée en quelque sorte avec l'Académie des sciences, l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie, puisque des membres de cette agence appartiennent également à ces trois académies. Merci Michel Rieu et puis je vous dis à très bientôt.
Merci, à bientôt. Au revoir.